Alors, bonjour à tous, ça va bien? Quelle semaine au camp Jolibé! Vous savez, une des choses qui nous a touché le plus, Cathy et moi, cette semaine, c'était les réunions à 7 heures le matin, après que malgré les journées qui s'accumulaient, et de voir les moniteurs qui nous racontaient comment ça a été dans les temps de cabine. Si ça fait longtemps que vous avez été dans un camp, un temps de cabine, c'est quoi? C'est bon, il y a le temps de chapelle où on a la chance d'enseigner les enfants, mais le temps de cabine, c'est où on a la chance de jaser, de poser leurs questions. Puis les moniteurs qui sont fatigués, qui attendent de répondre à leurs questions. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes en ont des questions. Et même Cathy a eu la chance d'aller dans un des temps de cabine un soir, puis ils vont se coucher à 9h30, puis il est encore en train d'avoir des questions à 11h15. Puis Cathy essaie de revenir après pour venir se coucher, puis il y a des filles qui sont sorties de la cabine courir après pour continuer à y poser des questions. Mais avant, nos jeunes pensaient beaucoup à ces questions-là quand ils arrivaient au cégep et à l'université. Maintenant, ils se les posent au primaire puis au secondaire. Puis des bonnes questions, parce qu'on a beau leur enseigner la Bible, mais beaucoup des questions, c'était bien, comment on sait que c'est vrai? Bien, mais si la Bible nous le dit, ouais, mais comment tu sais que la Bible est vraie? Et comment est-ce qu'on sait qu'on a choisi les bons livres? Comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas les autres grandes religions qu'on nous enseigne à l'école? Comment est-ce qu'on. Et d'autres qui viennent d'un milieu plus défavorisé où ils ont des difficultés. Si Dieu est, si ton Dieu est bon, pourquoi il y a de la souffrance? Donc, ces grandes questions qu'on se posait beaucoup plus tard, ils se les posent maintenant à 9, 11 ans. Et c'est justement pour ça qu'on a travaillé, Cathy et moi, sur les pourquoi de la foi avec une équipe. La mission pour laquelle on travaille s'appelle aujourd'hui One Hope Canada, un seul espoir, dans un sens, était anciennement Canadian Sunday School Mission, donc la mission canadienne pour l'école du dimanche. On a 42 camps au travers le Canada et on croit beaucoup à l'école du dimanche. Pourquoi? Parce que c'est là que la majorité des gens donnent leur vie au Seigneur. Le Seigneur fait ce qu'il veut, mais statistiquement, la majorité des gens viennent au Seigneur entre 9 et 11 ans. Fait que c'est le ministère des camps est un ministère essentiel. Fait que je vous remercie de... je n'étais jamais venu, on m'en a parlé pendant des années, mon oreille a entendu, mes yeux n'avaient pas encore vu. Mais maintenant, on a eu la chance de pouvoir être là, puis j'ai vraiment été béni de pouvoir voir l'hospitalité de la région aussi, mais le cœur pour le Seigneur, puis de voir, vous avez quelque chose d'unique avec un nombre incroyable de jeunes gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui viennent de familles, et ça, je vous dirais, vous êtes pratiquement unique au Québec dans cette dynamique-là. Vous êtes un flambeau, continuez de briller. Continuez de prier pour les jeunes aussi, parce que ce n'est pas un milieu facile aujourd'hui, puis ils se font dire tellement avec puissance par leurs professeurs que la Bible et tout ce qui concerne ce qui tourne autour de ça, ça ne vaut rien. Fait que priez vraiment fort. Et donc, oui, on a reçu en fait une bourse pour pouvoir donner des boîtes à des familles, à des églises en région, et c'est pour ça qu'on peut l'offrir gratuitement dans cette saison. Fait que merci pour ceux qui ont donné pour ça, mais je vous encourage, si vous avez des enfants, que ce soit de 9 à 11 ans ou 13-17, il y a deux curriculums vidéo complets, il y a des cartes de questions que vous pouvez discuter en famille. Si tu dis, ben j'ai toujours voulu faire un culte en famille, je ne sais pas par où commencer, ça peut être même une bonne occasion de commencer. J'en profite aussi pour vous passer quelques salutations de Samuel Plante, qui n'est pas dans la région cet été parce que leur quatrième enfant vient de naître là, il y a quelques semaines. Il passe ses salutations, il m'a dit beaucoup de belles choses de votre église, mais donc il vous dit bonjour et merci encore. Donc, il vous envoie et merci pour les prières, pour son ministère et je vois son poster aussi en arrière. Merci pour l'encouragement. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on tourne en Luc chapitre 18. Et j'aimerais voir, comme je disais, c'est la première fois que je suis dans votre belle région. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un virus qui court. Puis je ne suis pas sûr s'il s'est rendu jusqu'ici. Et souvent, les virus, ça commence des fois, dans les films du moins, ça commence par un singe à quelque part, là. Il faut que tu le trouves. Mais ce virus-là, il est parti avec un singe qui s'appelle Apapu. Apapu. Et qu'est-ce qui est ce singe-là? Mais c'est un syndrome où on lit l'Évangile, puis on se dit, ah, mais Jésus n'a pas pu dire ça. Ou Jésus n'a pas pu vouloir dire ça. Et c'est un virus qui, quand il nous atteint, rend inefficace notre lecture des Évangiles. C'est parce que, et en bout de ligne, c'est un peu, des fois, on a le syndrome du Lucky Charms, que j'appelle. C'est quoi? Les Lucky Charms, c'est un bol de céréales avec majoritairement des guimauves. Je ne sais pas pourquoi ils mettent le reste que personne n'aime vraiment manger, mais le Lucky Charm, c'est quand j'enlève les guimauves pour manger seulement les guimauves, je prends qu'est-ce qui me plaît. Et ça finit par être ça un peu notre lecture Lucky Charms des Écritures, c'est qu'on est content quand on entend ce qu'on a toujours entendu, Puis, ben, le reste qu'on n'aime pas beaucoup, on le met de côté, puis on s'en rend. Mais le problème, c'est que comme c'est un virus, on s'en rend même pas compte. C'est comme quelqu'un cette semaine au camp qui, il y avait une odeur qui circulait à mon nez, probablement un campeur. Et quelqu'un dit, « Ah, mais moi, je sens rien. » Ben, il y avait un virus. Il y avait le nez bouché. Mais des fois, on a le nez bouché par rapport à ce que l'Écriture nous dit. Alors, on part en voyage avec Jésus. Donc, on va, des fois, on prend un seul paragraphe, une seule péricope. Puis, des fois, on a besoin de voir l'ensemble un peu d'un chapitre ou d'un passage pour voir qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Puis, surtout particulièrement, à qui il parle. Parce que tu te rends compte, des fois, par exemple, en Luc 16, ça débute par une série de paraboles, mais il parle aux pharisiens qui sont là et il nous donne un indice. Les pharisiens qui aimaient l'argent, trois petits points, et là, il part dans une série de paraboles. Mais même plusieurs chapitres plus loin, tu es encore en train de traiter de ces questions-là. Donc, c'est intéressant on va se promener un peu, on va quand même voyager dans notre carrosse un peu rapidement pour s'y rendre. Mais on va débuter en Luc, chapitre 18, verset 9. Et j'aimerais vous donner une clé. Et une clé pour vaincre ce virus. C'est un genre de vaccin. Et c'est la question suivante. Qu'est-ce qui me surprend dans ce passage? Pourquoi? Parce qu'est-ce qui me surprend ou qu'est-ce qui me dérange, ça permet de faire ressortir l'élément marquant dans l'Écriture. Parce que si l'Écriture ne te dérange plus, tu es probablement atteint de ce virus-là. Ou c'est peut-être le temps de changer de version de Bible. Parce que des fois, quelqu'un me posait la question, « Quelle version de Bible tu recommanderais pour les jeunes? » Il y avait plusieurs options. Puis je dis, « Mais il y a certaines versions de Bible que maintenant, même si on l'utilisait il y a 40, 40 ans, mais il faut t'expliquer chaque mot. Maintenant, aux jeunes d'aujourd'hui, on veut utiliser quelque chose qui nous dérange parce que Jésus, il n'a pas été mis sur une croix parce qu'il dérangeait personne. Mais Jésus aussi, les évangiles sont là pour nous déranger, nous aussi. Parce que des fois, on va dire, « Ah, mais Jésus n'a pas pu vouloir dire ça. » Ou du moins, ce n'était pas pour nous. Le problème, c'est que quand on lit les évangiles, « Ah, wow, hey, un tel aurait tellement dû être là aujourd'hui. Ça y aurait fait du bien. » Non, mais Jésus va nous dire, « Hey, avant de regarder le poteau d'hydro qui est dans le dans l'œil du voisin, regardons la poutre nucléaire qui est dans le tien. » Lisons ensemble. Luc, chapitre 18, à partir du verset 9. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Et là, on a un bonbon en partant. Jésus nous donne la raison de la parabole. Des fois, il ne la donne pas. Puis là, c'est à force de regarder le contexte, puis de creuser qu'on trouve. Mais s'il nous dit, les gars, je vais vous dire une histoire. Puis mon point, c'est, je le dis parce qu'il y a des gens qui sont convaincus d'être justes et qui méprisent les autres. La question qu'on devrait se poser, est-ce qu'il parle de nous? Est-ce qu'on méprise les autres qu'on va voir dans la parole? Donc, la question, Jésus, il y a comme un auto-examen qui devrait partir. Est-ce que Jésus veut parler de nous? Il part avec l'histoire. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Pire job à l'époque, parce que il n'y a pas d'Internet, tu ne peux pas payer par la malle tes affaires. C'est le gars qui collecte les impôts devant toi et qui souvent s'en met dans les poches en même temps. C'est un traître parce qu'il travaille pour l'Empire en plus. Donc, c'est un traître, c'est un fourbe. Donc, vraiment un crotté à l'époque, là. Mais tu as le pharisien qui est l'homme bien vu, l'homme religieux avec la grande soutane, etc., etc. Et de l'autre côté, tu as le collecteur d'impôts. Déjà, en partant, tu as tes préjugés et envers un et envers l'autre. Sauf que nous, ce qui est intéressant à faire, c'est qu'on est 2000 ans plus tard. Les pharisiens, dans notre tête à nous, ce n'est pas les bons gars. Fait que déjà, on part un peu déphasé du monde dans lequel Jésus parlait. Mais continuons. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Et le pharisien, debout, faisait cette prière. Et là, vous avez tous passé un mot. Puis même si je l'avais lu, vous ne l'auriez pas vraiment entendu. Et le pharisien faisait intérieurement cette prière. Parce que nous, on a l'impression que le pharisien, il se met sur le bord, là, « Oh, Seigneur éternel, transcendant! » Le pharisien est au temple, il prie à l'intérieur de lui-même. Il prie quoi? « Je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. » Moi, je jeûne deux jours par semaine et je donne 10% de tous mes revenus. On va laisser là un instant, je vais revenir à ça dans un instant. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il frappait sa poitrine, puis il disait, « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis! » Je vous l'assure, dit Jésus, c'est ce dernier, le collecteur d'impôts, qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Plusieurs choses intéressantes des fois dans le passage. Un, nous, quand on regarde, on racontait cette parabole aujourd'hui, s'il y avait un évangélique aujourd'hui qui était dans la parabole, il y a trois hommes au temple, et l'évangélique se lèverait puis il dirait quelque chose comme, « Seigneur, merci que je ne sois pas comme ce pharisien. » Parce que dans le fond, je jeûne pas, puis je donne rien. Parce que je ne voudrais pas le faire par raison religieuse. Dans Matthieu 23, chapitre 20, verset 23, il y a une chose, à un moment donné, le verset m'a frappé comme une masse de briques. Les pharisiens, là, Jésus fait une montée là, contre les pharisiens. Et là, à un moment donné, les pharisiens disent « Malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous posez la question, est-ce que je devrais donner la dîme de mon revenu sur ma collection, sur ma production d'épices dans l'arrière, dans ma cour? » Puis là, Jésus leur dit « Ah, mais vous êtes donc terribles, parce que vous passez à côté des choses les plus importantes de la loi, la justice, la compassion, la miséricorde. » Puis là, on ne se rend pas compte, il y a la petite phrase de Jésus après qui dit « Ce qu'il fallait que vous fassiez, c'est les deux. » J'ai passé des années à lire ce verset-là sans me rendre compte que Jésus m'en disait, non, il dit, des fois, les pharisiens, ils ont raison. Le cœur n'est pas à bonne place. Ils sont hypocrites, mais Jésus va des fois valider qu'est-ce qu'ils font. Puis là, on est surpris parce que nous, les pharisiens, c'est ceux qu'on ne devrait absolument pas imiter. Fait que nous, on est, merci Seigneur que je ne sois pas comme ce pharisien. Puis dans le fond, on est content, si on est honnête, des fois, on est content de ressembler aux collecteurs d'impôts, aux pécheurs, avant qu'ils se convertissent. Puis dans notre message, des fois d'Évangile, dans les dernières années, on a passé le message, écoute, tu peux, Jésus, la bonne nouvelle, Jésus est mort pour tes péchés, puis moi je suis comme toi, mais j'ai Jésus en plus. Puis on est comme content de dire le plus semblable au monde qu'on est pour leur montrer qu'on est cool, puis qu'ils n'ont pas besoin de changer tant que ça. Ils ne perdront pas grand-chose. On lisait cette semaine, dans une des méditations ce matin, dit, celui qui aime le monde est ennemi du Père. Moi, ça vient toujours me travailler parce que ça m'amène à la question, qu'est-ce qui est dans ma vie, Seigneur, que j'aime trop, qui est attaché à ce monde ici? Fait que là, et on regarde le collecteur d'impôts. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Mais ça, ce n'est pas seulement une prière qu'on a besoin de faire le 4 novembre 1987, quand j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est une prière qu'on a encore besoin d'avoir. Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Puis c'est ce qu'on se rappelle à chaque fois qu'on prend la Sainte Cène. Je suis un pécheur, puis j'ai eu besoin de la grâce de Dieu, puis j'en ai encore besoin à chaque jour de la grâce de Dieu. J'ai besoin de l'aide de Dieu à chaque jour. Jacques va dire la même chose. Humiliez-vous devant Dieu, il vous élèvera. Il dit, parfois, il faut enlever la joie, qu'on aime avoir la joie, pour prendre le deuil. Fait que c'est, il y a des émotions, tu sais, il y a certaines émotions dans le milieu évangélique qu'on aime beaucoup, puis il y a certaines émotions qu'on aime un peu moins. Le deuil, le jeûne, la tristesse, l'humilité, dire, Seigneur, vraiment, j'ai besoin de ta grâce parce que je suis encore un pécheur. Jésus continue. Et grosso modo, dans le passage qu'on a, Jésus s'en va tranquillement vers Jérusalem. Va arriver avant Jéricho, à Jérusalem. On continue. Alors, Jésus, des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Les gens amènent des enfants au camp Jolibé, ils entendent l'Évangile, puis certains disent « Non, non, regarde, de toute façon, ça ne sert à rien, ils sont juste des enfants. » Ça serait comme surprenant, hein? Mais c'est un peu qu'est-ce qu'on fait dans nos églises, dans nos assemblées. Regardez ce que Jésus va dire. « Jésus les fit venir et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Pas parce que nous, on fait l'inverse. Nous, on va dire souvent à nos enfants, ben, OK, j'espère que tu fais une profession de foi quand tu es jeune, mais un jour, quand tu grandiras, tu vivras une vraie vie chrétienne, là. On veut que les enfants deviennent une foi d'adultes, puis on a de la misère à considérer qu'ils ont une véritable foi ou qu'ils ont besoin de grandir comme des disciples. Jésus dit aux adultes, si vous ne devenez pas comme un de ces petits enfants, toi, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Jésus nous revire. Deux choses, deux fois que Jésus nous revire les affaires de place. Là, on est déjà un peu sonné, on continue à marcher vers Jéricho. Alors, un notable ou un homme riche l'accroche et dit, « Jésus, bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » « Pourquoi m'appelles-tu bon? » dit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. » Bien sûr, ici, Jésus n'est pas en train de renier sa divinité, mais il est en train de dire, « Hey, pourquoi est-ce que tu dis que tu es bon, ou que tu m'appelles bon, ou en bout de ligne, que tu réfléchis que tu es bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Alors, il répond à la question, Jésus répond, « Comment que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Et là, Jésus s'en va « off script ». Jésus va dire l'opposé de ce qu'on s'attend qu'il dirait. La réponse de Jésus, verset 20, « Tu connais les commandements? » Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Tout cela, répond-il, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Dans un des autres évangiles, il y a ce petit bout de phrase qui est significatif pour nous aider à voir comment l'attitude de Jésus envers cet homme. Jésus l'aima. Il va le dire même plus loin dans un autre évangile. Cet homme n'est pas loin du royaume de Dieu. Il n'est pas dans le royaume, il n'est pas loin. Ça nous surprend, voyons. À ces mots, Jésus le challenge, voit l'idole du cœur. Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Puis là, on est complètement surpris parce que tu te rends compte, Jésus qui prêche l'Évangile. Point d'interrogation. On garde en suspens. On va aller voir avec l'ensemble du passage, vous allez voir, ça, on va y revenir, mais quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé car il était très riche. Et là, j'aimerais suggérer quelque chose. C'est que la majorité d'entre nous qui vit au 21e siècle, dans la société avec laquelle on vit, avec tout ce que l'on a, on est plus riche que cet homme-là. Très probablement. On a de bien plus nombreuses possessions que ce que cet homme-là avait. En le voyant ainsi abattu, donc le gars, il s'en va, il dit, « Mais là, moi, c'est ça qu'il faut que je donne. Entre tes mains, j'abandonne. Oui, prends tout, Seigneur. » Mais là, les disciples, s'ils marchent avec Jésus puis entendent ça, là, les disciples pognent peur. Qu'il est difficile, dit Jésus, à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les éditeurs s'écrièrent, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus leur répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Là, Pierre. Pierre, c'est notre grand gueule du groupe là, qui pose toujours les questions, on se met toujours un peu les pieds dans les plats. Pierre lui dit, « Nous avons tout laissé, nous. Seigneur, nous qui avons tout laissé pour te suivre, on a fait ce que ce gars-là, il voulait pas faire. » Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou même ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Ouais, mais là, Jésus, il aurait besoin de faire un cours d'évangélisation explosive parce que Il a passé à côté d'une série de points, tu sais, qu'on trouverait essentielles pour présenter l'Évangile. Peut-être envoyons, gardons ça, on peut-être envoyer Jésus à Bethel. Jésus prit les 12, les mit à part et dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens. On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort, puis le troisième jour, il ressuscitera. » Verset 34, « Les disciples ne comprirent rien. » Les disciples comprennent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique. Ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. A pas pu. La première place qu'on voit le virus. Jésus leur dit clairement, le Fils de l'homme s'en va à Jérusalem. Il va souffrir, il va être fouetté, il va être mis à mort. Il va ressusciter le troisième jour. Jésus a pas pu dire ça. Comprirent rien. Continue. Jésus continue à marcher. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. Comprenons qu'à l'époque, il n'y a pas de système social comme on a aujourd'hui. Il n'y a pas d'aide humanitaire, il n'y a pas d'aide gouvernementale. Les aveugles, les gens qui étaient infirmes, étaient généralement à l'extérieur un peu de la société, à moins que quelqu'un prenne soin d'eux ou que les gens fassent l'aumône pour leur donner des sous. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle, regardez bien l'idée, là. Tu as des gens qui sont les yeux pleinement ouverts et qui ne comprennent absolument rien à qui Jésus est, puis c'est ces personnes les plus proches. Puis il y a un aveugle qui est sur le bord du chemin. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demandait qu'est-ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors, il se mit à crier très fort, « Jésus! Jésus! Fils de David! Fils de David! Aie pitié de moi! » Ceux qui marchaient en tête du cortège, ne dit pas dit qui. C'est pas qu'il y a une couple de disciples dans la gang. Ça le dit pas. Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire. T'imagines, tu pognes l'aveugle, tu l'amènes un peu plus loin. Ah non, le maître, il n'y a pas de temps pour toi. Mais là, les enfants viennent de se faire mettre à côté. Le collecteur d'impôts se faisait mettre de côté facilement. Et là, les riches se font mettre de côté. Les gars, non, les aveugles, ils veulent rien savoir. Mais il se mit à crier encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi! Là, t'imagines, la foule est là, là. Je veux dire, c'est comme quand tu as la gang d'enfants qui sont dans la cafétéria, Jolie B. Faut t'entendre, là. Faut d'une part à l'autre bord, il faut que tu parles fort. Fils de David! Intéressant, Jésus vient d'utiliser un autre de ses titres, justement, le Fils de l'homme. Puis les disciples ne voient rien. C'est un aveugle qui entend parler de qui Jésus est. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit, « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. Et voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Il rencontre Jésus et est transformé. Il rencontre Jésus et est transformé. Jésus entre dans la ville de Jéricho, la traversa. Or, il y avait un homme nommé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et riche. Quand tu es le chef des collecteurs d'impôts, c'est comme la première vente pyramidale où il pogne des impôts, il pogne quelque chose pour eux, donne quelque chose pour lui. Il n'était pas aimé dans la ville. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant. Déjà, courir, quand tu es une personne dignitaire, là, comme dans le fils prodigue, par exemple, c'est pas très bien vu. Part à courir, grimpe sur l'arbre pour voir Jésus qui devait passer par là. Et lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella, Zachée. C'est surprenant, Jésus connaît son nom. Zachée. dépêche-toi de descendre, car chez ses... Oh non, ça se fait ça. Zacée, Zachée se dépêcha de descendre, parce que Jésus lui dit, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Alors, il débarque avec joie, il amène, et probablement, il amène sa gang de collecteurs d'impôts aussi avec lui. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Et c'est fou combien souvent les gens sont indignés, hein? Lui, il mérite pas, lui, il mérite pas, lui, il mérite pas, lui, il mérite pas, lui, il mérite. Mais nous! Zachée, donc, on n'a pas la discussion qui s'est passée au souper. Tu sais, il y a des parties dans la Bible là, que l'Écriture ne nous donne pas, que j'ai hâte d'être au ciel là, pour... Hey, c'est quoi le reste de l'histoire, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais à la fin de ce souper-là, Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trop pris d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Véritable conversion, repentance, complètement se tourner de bord dans qu'est-ce qu'il fait. Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Mais là, ce qui est intéressant, quand on y réfléchit, quand on regarde avec l'ensemble du passage un peu, il a fait exactement ce que le jeune homme riche a refusé de faire. Il y a quand même une... Charles Spurgeon disait, il y a 3 conversions dans la vie. Il y a celle du cœur, il y a celle de la tête, puis il y a celle du portefeuille. Puis il dit, malheureusement, celle du portefeuille vient souvent à la 3e. Certains disaient qu'on devrait se faire bâtir avec notre portefeuille dans nos poches pour nous rappeler que c'est l'argent qui est au Seigneur, ce n'est pas le nôtre. Quand Jean-Baptiste commence à prêcher, puis il dit, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous, contentez-vous de votre solde. Et même l'apôtre Paul va nous dire ailleurs, il dit que celui qui volait, arrête de voler et commence à travailler afin de pourvoir aux besoins des autres. Fait que c'est pas juste que celui qui vole commence à travailler pour pourvoir à ses besoins, non, c'est que celui qui volait cesse de voler, commence à travailler pour pourvoir à ceux qui sont dans le besoin. Il y a des passages comme ça qui nous marquent. En Jacques, chapitre 2, je l'ai lu pendant des années. Il y a quelque chose là que je n'avais jamais vu jusqu'à récemment. C'est une histoire qui, on se rappelle tous de cette histoire où Jésus nous raconte, si quelqu'un au milieu de la nuit vient te cogner chez vous, toc, 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 j'ai de la visite. Dans ce temps-là, tu sais, il n'y a pas de 24 heures, Petro-Canada ouvert 24 heures, là, il n'y en a pas. Si quelqu'un au milieu de la nuit te demande, hey, j'ai besoin de pain, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver chez nous, hey, j'ai besoin de pain, même si c'est juste parce que ça t'écœure, puis tu veux te retourner te coucher, tu vas lui donner du pain. Ça, c'est une histoire que Jésus nous raconte. Et dans, si tu me posais la question, dans Jacques 2, quand il nous parle, bon, ça a l'air de quoi une foi, tu sais, qui est démontrée par nos œuvres, ben oui, oui, c'est marqué. Si quelqu'un arrive chez vous un soir puis il a besoin, ben oui, moi, ça ne me dérange pas. Et moi, je suis prêt là, n'importe quand, une fois par 10 ans, là, à donner quelque chose. Mais en Jacques 2, là, si on va bien voir, puis c'est là, à un moment donné, j'ai comme la papue, il est dans mon corps, moi aussi. Jacques va dire, si quelqu'un dans votre entourage n'a pas de quoi manger, boire ou se loger, puis que tu dises, mon frère, je vais prier pour toi. Que vaut cette foi? Et c'est là que, dans ma tête, j'avais mis les 2 histoires ensemble. Quand tu te rends compte que Jésus est en train de parler des réelles personnes qui sont dans une réelle communauté, puis pas mal en tout temps, mais Dieu, dans l'Ancien Testament, a à cœur les pauvres. On l'a chanté tout à l'heure, car je viens pour annoncer une bonne nouvelle. La vue aux aveugles, fils de Dieu, fils de David, aie pitié de moi. En l'audition aux sourds, libérer les prisonniers, annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais le texte n'arrête pas là. Jésus semble obsédé par l'argent. Parce qu'il en parle encore dans la suite. Comme la foule écoutait ses paroles, Jésus continua en racontant une parabole. Et j'en ai une autre pour vous autres.
En effet, ils se rapprochaient de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Ce qui était le Messie là, il est tout, ça s'en vient. Voici donc ce qu'il dit. Une parabole. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi. Là, on comprend ici que Jésus fait une appellation à son ascension puis au fait qu'il va s'asseoir à la droite de Dieu. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi avant de revenir ensuite dans ses états. Il convoqua 10 de ses serviteurs, il leur remit à chacun une pièce d'or, puis il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chercher de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. »
Un peu plus de détails que d'autres fois, comme en Matthieu 25, par exemple, on a une parabole qui est semblable. Donc, quelqu'un s'en va lointain pour être miroir. Il va revenir. Les gens qui sont dans le pays ne veulent pas de lui, ils veulent un autre gouvernement. Mais après être nommé roi, il revint dans son pays, fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître, tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire, je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approcha et dit, « Seigneur, ta pièce d'or a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit, « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent de ce que tu n'as pas placé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Vaut rien, lui dit le maître. Tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne où je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurai retiré avec les intérêts. » Puis il ordonna à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » « Mais Seigneur, lui fit remarquer, il a déjà 10 pièces. Eh bien, je vous les déclare à celui qu'on a. C'est à celui qui a, on donnera encore, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Là, tu as un petit verset. Encore une fois, on fait apparaître des versets, là. Verset 27. « Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi et qu'on les mette à mort devant moi. » Le Fils de l'homme, Fils de Dieu qui est venu comme un homme, il vit une vie parfaite. Venir mourir sur une croix pour payer ce qu'on n'aurait jamais pu être capable de payer, de vivre. Reviendra une deuxième fois. Puis continue d'annoncer l'Évangile. L'humanité n'a pas voulu rien savoir de lui. S'ils ont fait ça avec le Maître, ils le feront aussi avec les disciples. Il nous envoie dans toutes les nations partager son message, sa bonne nouvelle. Mais le monde continue. La lumière est venue dans le monde, les mondes ne l'ont pas accueilli. Ils n'ont pas rien voulu en savoir de lui. Fait que Jésus, c'est une idée, c'est un autre aspect de Jésus. Notre société aime bien, le passage favori des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, mais qui connaissent un tout petit peu de la Bible, c'est la parabole où Jésus était avec la femme adultère. Va et ne pêche plus, mais je ne te condamne pas. Mais Jésus revient un jour. Puis, l'idée après ça, il est qui il est. Et on termine avec notre dernier paragraphe de cette grande péricope. L'entrée du roi à Jérusalem. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Comme il s'approchait de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, là où il reviendra, il envoya deux de ses disciples en disant, « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. » Pour accomplir une prophétie dans ce testament. « Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez simplement parce que le Seigneur en a besoin. » Ceci est l'âne que le maître cherche. Au moment qu'il détachait l'ânon, les propriétaires demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils le conduisirent à Jésus. Et après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils furent monter Jésus dessus. Sur son passage, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Comme ils approchaient
de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, » disait-il. « Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » À ce moment, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus, « Maître, fais taire tes disciples! » Et Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Le message du roi ne peut pas être arrêté. On prend tout ça. Lâche là où est ton cœur, là sera ton trésor. Puis Jésus nous dit en Matthieu, nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Et l'argent est souvent vu comme un autre Dieu, et dans lequel on fait comme dans certains patriarches d'Ancien Testament, on le cache dans notre sac, puis on part en voyage, puis on espère que Dieu ne le verra pas. Il veut nos cœurs tout entiers. À quoi bon à un homme de posséder la terre au complet s'il perd son âme? Jésus, bien sûr, n'est pas ici en train d'enseigner qu'on doit suivre la loi, devenir parfait de cette manière et pouvoir être sauvé. Jésus regarde l'homme qui est possiblement, c'est assez facile, en guillemets, de passer une demi-journée sans enfreindre les 10 commandements. Mais il regarde la vie du maître, oui, tu t'as suivi pas mal les 10 commandements, mais, Jésus dit, laisse-moi regarder ton cœur. Il y a une chose qui manque. Puis quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'autre que Jésus va mettre le doigt dessus. C'est quoi les idoles de nos cœurs? On veut rester capitaine de notre propre bateau. On a un orgueil. On a les richesses. On a plein de choses. Ce qui transforme, c'est Jésus dans chacune de ses rencontres. La rencontre avec Jésus. On ne sait pas exactement ce que Jésus a dit à Zachée, mais ça se peut que ça soit très semblable à ce qu'il vient de dire juste quelques lignes avant à l'homme riche qui vient le voir. Puis Zachée va voir, « Wow, je suis enchaîné par mes propres richesses. » Il y a une façon, il y a une image que j'aime bien, on parle de singes, là, mais les chasseurs de singes, parfois, vont mettre une cage avec, à l'intérieur, une banane. Et la façon que le chasseur se cache, puis la façon, c'est que le singe, quand il se rend compte qu'il n'y a pas trop personne, commence à descendre. Ben, il se promène, il s'en va, il prend, mais la banane est dans la cage, mais il y a des barreaux. Mais il n'est pas capable de sortir la banane parce qu'il y a les barreaux. Mais là, fait qu'il tire dessus. Là, il s'énerve de plus en plus. Puis là, il voit le chasseur arriver pour venir le capter. Puis il capote encore plus, puis il se fait prendre. Mais comment le singe aurait pu se sauver? Lâche la banane. Lâche la banane. Il y avait deux hommes dans un temple. Lequel des deux est sorti justifié? Celui qui avait encore plein de richesses. Puis, Seigneur, je suis un pécheur. J'ai besoin de toi. Puis, je pense que ce challenge de Jésus envers l'argent est un challenge réel pour nous en Amérique du Nord. Puis je crois que, et une des raisons pour laquelle nos séminaires bibliques, nos camps, nos églises, les missionnaires, et on vit dans beaucoup de difficultés un peu partout. C'est parce que le cœur de l'Église du Christ au Québec est souvent cheap. Puis il y a des passages dans plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament, il dit « Pourquoi avez-vous des maisons extraordinaires quand le temple de Dieu est en ruine? » L'apôtre Paul va dire en Philippiens, il dit, il y a plusieurs personnes ici, ou ce qui se trouve dans son emprisonnement, personne n'a à cœur les choses de Jésus, mais chacun a à cœur ses propres intérêts. Fait que le message que Jésus nous dit, des fois, on écoute ce que Jésus nous dit, ah ben oui, c'est bien beau, mais parce que de toute façon, j'ai donné ma vie à Jésus il y a 25 ans. Ce que Jésus a dit ne me concerne plus. Non, ce que Jésus a dit nous concerne encore. Non, je n'ai pas besoin de remettre ma foi à nouveau en Jésus, mais à chaque jour, j'ai besoin de la grâce de Dieu et de la parole de Dieu. Ta parole et la vérité sanctifient-nous par la vérité. Puis si, ici, on voit au travers ces divers moments-là, mais ce que le Seigneur, on t'a fait connaître aux hommes.
ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu aimes la justice, la miséricorde, la compassion, que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce message que Jésus a annoncé, le message de l'Évangile, on l'a chanté dans un chant merveilleux, c'est la première fois que je l'entendais, c'est quoi le message de la bonne nouvelle? Le message de la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement que nos péchés sont pardonnés, c'est une extraordinaire nouvelle. Le message de la bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est le roi de l'univers qui vient dans sa création, puis qui vient nous dire, il fait une promesse. Ces douleurs de l'enfantement, toute la création crie quoi? À un monde de paix et de justice, où il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrances, plus de douleurs, plus d'infirmités, plus de morts. The king is in house. Le roi est là. Jésus est ce roi extraordinaire que l'on chante. On l'a chanté dans plusieurs chants. Le message de l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Puis, Seigneur, mais j'ai besoin de ton Évangile à chaque jour. Au début de ma vie chrétienne, à la fin de ma vie chrétienne, au dernier jour de ma vie chrétienne, ma voix défaillante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus, et qu'il puisse nous aider à l'aimer. Que ce Saint-Esprit qui est en nous, puis juste un peu avant le début de notre passage, Jésus nous parle du Saint-Esprit qui vient dans nos cœurs. Puis une des plus grandes promesses dans l'Ancien Testament, c'est dans Ézéchiel, dit « Je mettrai ma loi dans votre cœur et j'accomplirai mes commandements en vous, au travers vous. » C'est toute la différence. Hein? Essayer de puis d'aller fort puis de faire les commandements de Dieu versus hey, « Non, non, Saint-Esprit est ici. » Puis il est là, pourquoi? Vous l'avez mentionné dans votre partage. Nous serons un jour rendus parfaitement semblables à Jésus. Puis on aspire à cette journée-là. Mais ça n'empêche pas l'apôtre Paul de nous dire quoi? Ayez en vous les attitudes, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Notre but, Romains 8, nous sommes prédestinés à devenir quoi? Semblables à l'image de son Fils. Et ça se fait comme David ou fait un Michel-Angelo. Mais Dieu a son piquet, son marteau, puis enlève des morceaux qui doivent partir tout au fur de notre vie pour nous rendre et qu'à la fin dise « touche finale ». Il nous transforme, car j'ai confiance que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la rendra parfaite pour le jour de son retour. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nos cœurs, Seigneur, ont un désir de te voir. On a au cœur un désir que vraiment tu mettes fin pour toujours au mal, à la souffrance. On a un monde plein de guerre, d'injustice, de plein de choses. Seigneur, merci parce que premièrement, tu es venu nous sauver de l'ennemi le plus grand. Nous-mêmes, notre cœur, notre volonté d'être, de nous prendre nous-mêmes pour Dieu, de mener la barque, d'être le capitaine de notre bateau, le capitaine de notre âme. Seigneur, merci. Continue de nous transformer à chaque jour et fais que ta parole demeure une épée à deux tranchants qui vient séparer nos motivations du cœur. Seigneur, ta parole, comme Jacques dit, est un miroir et ne nous permet pas d'être oublieux. Seigneur, on a tous des places, comme quand Jésus parle aux diverses personnes. Seigneur, il y a des choses différentes dans chacune de nos vies. Puis plus qu'on avance et tu continues à faire le ménage d'autres places dans nos vies, Seigneur, continue. Seigneur, aide-nous à laisser partir notre orgueil, nos résistances. Seigneur, attire notre âme à toi. Courbe notre être, Seigneur. Courbe notre volonté. Seigneur, que même quand des fois j'ai la misère à croire, mais viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour Jésus, celui qui est venu, qui est mort pour nous, qui nous donne la vie chrétienne, la vie éternelle, gratuitement, par la foi, en toi. Sois béni éternellement, ô Dieu. Amen.